On a enregistré le cours.
Ah oui. Alors, attention, le cours est enregistré. Par contre, c'est en audio, c'est pas en vidéo. Ok, donc demain soir, c'est Tu Dis Shvat. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est la fête dont vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors, on a la coutume de manger des fruits. On va essayer de voir pourquoi. Alors, Tu Dis Shvat, ça a une incidence légale, complexe, dont on voit dans la première Mishnah du traité Rosh Hashanah. C'est-à-dire que dans l'année juive, il y a par exemple, je prends l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, les fruits de la Shemitah, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Hein, s'il y a des questions, vous demandez. Bien. Alors maintenant, les fruits... Alors, on va faire comme ça, on va faire un petit tableau.
On peut effacer.
Ouais. On va faire un petit tableau. Voilà, c'est bon. Ça va.
Ouais.
Les fruits de la Shemitah ont une sainteté. On ne fait pas du commerce avec lui. Maintenant, vous allez dire, et le fruit de la Shemitah, quand est-ce que commence la Shemitah ? Quand ça commence la Shemitah ?
La récolte d'après la Shemitah ?
Non, l'année de la Shemitah. Disons, c'est tous les 7 ans, ça commence à Rosh Hashanah. Oui, ça commence à Rosh Hashanah. Comment jusqu'au Rosh Hashanah l'année d'après. Maintenant, prenons par exemple les agrumes. Une mandarine, grand A. L'année de la Shemitah, une mandarine, quand est-ce qu'elles sont cueillies les mandarines ?
L'hiver, je
pense. Oui, l'hiver. Par exemple, en ce moment. Ouais. Par exemple, en décembre. Donc l'année de la Shemitah, trois mois après Rosh Hashanah, on cueille les mandarines. On cueille les mandarines. Est-ce que cette mandarine a la sainteté des fruits de la Shemitah ?
Non.
Pourquoi non ?
Elle a poussé avant la Shemitah.
Voilà. Elle a poussé, ça veut dire bien qu'on l'accueille pendant l'année de la Shemitah, mais l'impulse de ce fruit vient de la montée de la sève dans l'arbre. Et quand est-ce que, juridiquement, on dit théoriquement, la montée de la sève commence à tel moment, c'est le 15 du mois de Shvat. Le kashfat, c'est là, c'est-à-dire les fruits d'un arbre qui ont bourgeonné après le 15 shvat, eh bien, ça fait partie de cette année-là. Donc, ça veut dire que là, disons, t'as Rosh Hashanah, machin, le 15 shvat de l'année de la Shemitah, donc ça sera, disons, 4 mois, et demi après Rosh Hashanah, eh bien, ce qui va bourgeonner après, disons au mois de février de l'année d'après, le mois de février, c'est là où ça commencera, ce qui va bourgeonner après aura la sainteté de Shemitah. Donc les fruits de la Shemitah se termine le Rosh Hashanah d'après, eh bien, les mandarines qu'on cueillera en décembre, 3 mois après Rosh Hashanah de la fin de la Shemitah, auront la sainteté de Shemitah. Voilà. Ça, c'est juridiquement l'incidence du Tou Bishvat, du 15 du mois de Shvat.
Donc ceux qui dont les fruits qui sont nés après Tou Bishvat sont considérés comme
qui bourgeonnent. Parce que tu peux avoir un fruit que tu cueilles après Tou Bishvat, mais il a bourgeonné il y a 10 mois. Tu vois? Oui. C'est pas la cueillette, c'est le moment du bourgeonnement. Ok. Maintenant, vous avez l'année de la Shemitah, vous avez Rosh Hashanah. Et tu récoltes des salades le 5 Tishri, le 5 du mois de Tishri. Alors, les légumes, il y a une différence fondamentale, conceptuelle, fondamentale, entre les fruits et les légumes. Voilà. Okay. Le fruit, par exemple, un fruit, on fait, sur les bénédictions, on fait Boré Péri à Adama sur un légume, sur un fruit, on fait Boré Péri à Etz. La différence fondamentale, un fruit et légume, c'est que, c'est quoi? Il y a plusieurs différences. Mais la différence, c'est le tronc. Par exemple, ici, vous avez des myrtilles. C'est quoi comme bénédiction? Boré Péri à Etz. Pourquoi? Parce que les myrtilles, il y a une tige, c'est une tige comme un arbre, c'est un arbrisseau qui est par terre, mais c'est un genre de tige qui n'est pas la tige des tomates, par exemple. Bon, ça c'est beaucoup analysé dans le Talmud. La spécificité du fruit, c'est que ça fait partie d'un arbre, et l'arbre, il y a le tronc. Le tronc, c'est ce qui va donner la vie au fruit, c'est la sève de l'arbre. Tandis que le légume est toujours nourri par l'eau qui vient, c'est-à-dire, quand, par exemple, les salades, je vous ai dit, vous avez une salade qu'on récolte le 5 Tishri, et ben, étant donné que la salade, il faut l'irriguer tout le temps, sinon elle meurt. Donc, c'est au moment de la cueillette que sera son statut. Parce qu'il n'y a pas le concept de tronc. Maintenant, si on réfléchit, on voit que la notion de fruit est fondamentale dans la Torah parce que Adam et Ève, les commandements qu'ils ont eus de Dieu, c'était par rapport aux fruits. C'était par rapport aux fruits. Et c'est ça un peu ce qu'on va voir. C'était quoi les commandements qu'ont eu Adam et Ève? Alors, les kabbalistes disent que pourquoi on mange des fruits le 15 Shvat, c'est une coutume, hein, c'est pas une obligation de la Torah, c'est une coutume. Une coutume qui a été développée par les sages de Tzfat au XVIe siècle, le Harizal, Rabbi Moshe Cordovero, etc. Eh bien, cette coutume, les kabbalistes disent, quelque part, c'est réparer la faute d'Adam. On va voir pourquoi on dit c'est la faute d'Adam et pas la faute de Ève. Voilà. Y a une photocopieuse ici?
Ouais.
Je vais voir, parce que j'ai pas fait une photocopie du texte de Bereshit. Petite seconde. Voilà, il y a cette page-là, donc on est, personnes, la page Yud et la page Yud Bet.
Et pas la page Yud Aleph.
Non, la page Yud, pas la page Yud Aleph. Okay. Voilà. Yud et Yud Bet, voilà. Ok. Oui.
Pourquoi elle a été fixée, la date de Tou Bishvat, si c'est une coutume et que ce n'est pas lié à un événement
particulier ? Non. Tou Bishvat est fixé juridiquement dans la Mishnah. Donc, c'est-à-dire, c'était fixé il y a 2000 ans. C'était Bet Hillel, l'école des Hillel disent. Hillel, ça fait 2030 ans, un truc comme ça environ. Ils ont fixé que le changement de date juridique d'une année à l'autre, c'est Tou Bishvat. Maintenant, il y a 500 ans, la coutume a été prise de manger des fruits. Voilà, c'est l'histoire de manger des fruits, ça c'est une coutume. Mais que Tou Bishvat était fixé, ça, ça fait 2000 ans. Hein. Voilà.
Du coup, ça correspond au... Attendez, je n'ai pas compris à quoi ça correspond. Parce qu'on a dit que la Shemitah, elle commence en Rosh Hashanah.
Commence à Rosh Hashanah. Mais c'est la Shemitah, par exemple, pour les légumes, c'est Rosh Hashanah. Mais pour les fruits, c'est Tou Bishvat. Okay. Pourquoi ? Parce que on est au cœur de l'hiver. Ouais. On est au cœur de l'hiver. Et les sages disent que beaucoup de pluie est déjà tombée. Et il y a la montée de la sève. Voilà. Okay. Ça ne se voit pas, mais il y a la montée de la sève.
Mais pour Hillel, le changement d'année,
c'est pour bien... les fruits. Pour les fruits.
Ah, ok, c'est pour les fruits.
Pour les fruits, seulement pour les fruits. Hein. Ok, bien. On va voir les versets là tout de suite.
Qui a instauré cette coutume de manger des fruits il y a 500 ans ?
C'est les Kabbalistes de Tzfat. Ah, Kabbalistes de Tzfat. Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Yosef Karo.
Dans le Talmud, il n'y a pas du tout de notion de ça.
Non.
Il n'y a pas.
Même en allusion.
Dans le Shulchan Arour, c'est pas écrit du tout de manger des fruits. Ouais, voilà.
Mais il n'y avait pas la coutume d'apporter la terouma au temple, d'apporter des fruits au temple.
Si, ça c'est les Bikurim, ça c'est à Shavuot. Voilà. C'est bon. Alors, regardez, on va voir les versets. Bon, alors, on sait que dans la Torah, Dieu a créé l'homme, homme et femme. On en a parlé il y a deux semaines. Hein. Il a créé l'homme, homme et femme. Bien. Mais par contre... Un autre chapitre, on voit qu'il n'y avait que l'homme, et après, Dieu voit que ce n'est pas bien que l'homme soit seul, et il a créé, à partir, on dit, de la côte de l'homme, il a créé la femme, d'accord ? Bien. Comme chacun sait. Bon, alors comment c'est compatible ? Le premier chapitre avec le deuxième chapitre, bon, ça c'est des questions complexes, donc je ne vais pas rentrer. Alors regardez, c'est dans la Genèse, dans Bereshit, le verset Tetvav. Vaikar Hashem Elokim et Adam, Vayanichreu began Eden le Ovda ou le Shomra. L'Éternel Dieu prit l'homme, l'a posé dans le jardin d'Éden. C'est quoi Gan Eden ? Ça veut dire quoi le Gan Eden ? Ça veut dire quoi ?
Le jardin des délices ? Eden, c'est pas un délice, c'est
pas... pas vraiment. Ça veut dire quoi, Eden ?
Douceur.
Comment ?
Douceur.
Douceur, ouais. Dans le jardin de douceur. Voilà. Il a mis le jardin de douceur. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Adin, ça veut dire doux. Ouais, tu peux prendre une banane. Ouais. Adin, ça veut dire doux. Hein. Donc, il a mis dans le jardin d'Éden pour les Ovda, pour travailler ce jardin, ou le Shomra, et pour le préserver. Donc, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, dans le jardin de douceur, pour les Ovda, pour le travailler, ou le Shomra, et pour le garder. Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemor, Mikol etz agan achol tochen. L'Éternel Dieu, alors, il y a deux noms, hein, il y a deux noms. Il y a, vous voyez dans cette édition, c'est écrit Yud Yud, mais en vérité, c'est Yud Ke Vav Ke, Elohim, Hashem Elohim. Donc il y a Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, c'est ce qu'on appelle la dimension de Rachamim, de miséricorde, Elohim de justice. Donc il y a deux dimensions. Dimension de miséricorde, de on pourrait dire de générosité, miséricorde. Et qu'est-ce que ça veut dire bon, en français miséricorde? Bon, c'est pas, c'est même pas de qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi midat arachamim?
C'est la possibilité de pardonner. Enfin de... Ouais.
Midat arachamim, c'est la dimension. C'est très vaste comme notion, hein. C'est, on pourrait dire, c'est la dimension de donner la chance à l'autre. Quelqu'un, il a fauté, je te donne la chance. Par exemple, je ne te punis pas tout de suite, je te laisse la possibilité de faire ton chemin. La dimension de justice, tu as fauté, bling. Voilà. Dans Midat HaRachamim, c'est tu as fauté, on va voir.
C'est pas de l'indulgence?
Non, il n'y a pas, dans notre tradition, il n'y a pas d'indulgence. C'est l'indulgence. Non, il y a, ça veut dire, il y a une justice, mais on te donne la possibilité, comme dit Yosef, si tu as fauté, de faire teshuva, de te reprendre, ou même de te faire, le, comment dire, de te faire l'expérience, de mûrir, de, tu fais des bêtises, ok, bah, tu mûris, tu, on te laisse la possibilité de faire ton chemin. Ça, c'est midat arachamim. Donc, en français, je ne sais pas comment on va traduire ça, d'accord ? Midat arachamim. Et Elohim, c'est dimension de justice. Bien. Donc il y a deux dimensions. Hachem, donc ça veut dire Midat HaRachamim et Elohim de justice. Donc il a ordonné Hachem Elohim à l'homme, les morts en disant Mikol etz agan achol toren. De tout arbre du jardin, manger tu mangeras. Ou me etz adat tovara lo tochal mimenu kibeyom acholra mimeno motamut. Ou me et ada tovara. Je ne sais pas quel est votre niveau d'hébreu. Sada tovara, on va traduire. De la connaissance. Tovara. Comment?
Entre le bien et le mal.
Alors, grand débat. On traduit, en général, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors. Relisons le guide des égarés. Je blague. Le guide des égarés de Maïmonide.
Mouré.
Oui. Alors, au début du guide des égarés, Maïmonide dit qu'il ne faut pas traduire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Tov Vara. Ça veut pas dire ça, ça veut dire bien. Mais ça veut pas dire mal. Il dit du bien et du mauvais. Du bien et du mauvais. Ça veut dire. C'est un S ?
Ouais.
Excusez-moi. Non, je suis mauvais.
C'est bon.
Comment ?
Tof, c'est bien ou c'est bon ?
Oui, c'est bon. C'est bon. Tof, c'est bon. Du bon et du mauvais. Alors. Alors, encore une fois. Et de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, vous n'en mangerez pas, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Donc il dit, de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en manges, mourir tu mourras. Alors, Maïmonide, dans le début du guide, ouais, il dit, les gens croient que c'est la connaissance du bien et du mal, mais il dit, c'est absurde, d'abord, dans les mots, Tov Vara, c'est bon et mauvais, et d'ailleurs, ce serait absurde de dire que c'est le bien et le mal, Parce que comment tu pourrais dire que avant la faute, c'était un imbécile, et après la faute, il connaît le bien et le mal. Donc après la faute, il devient intelligent. Donc c'est absurde. Donc c'est, tu ne mangeras pas, si tu en manges, oui, tu connaîtras le bien et le mal. Donc c'est absurde. Alors il explique Maïmonide, il explique le bien, le bon et le mal, ça veut dire que c'est un fruit que si tu en manges, tu seras tellement pris par la recherche du plaisir que après ta vie va être déterminée par la recherche du plaisir, même si c'est négatif de le faire, et se prémunir du mal, de ce qui est pas bien, de ce qui est mauvais, même si parfois il faut faire des choses qui sont désagréables. Qu'est-ce qui va, si on en mange, notre vie va être mue par la recherche de ce qui est agréable et se prémunir de ce qui est désagréable. Mais parfois il y a des choses à faire qui sont désagréables, il faut le faire, et il y a des choses qui sont agréables, il faut s'en prémunir. Donc c'est ça l'interdit premier.
C'est la subjectivité en fait. Parce que le bien et le mal, c'est des notions qui sont
absolues, quelque part, objectives.
Voilà. Donc les choses bien et les choses mal. Alors que le bon et le mauvais, c'est ce qui est bon pour toi ou mauvais pour toi.
Voilà. Or tu peux avoir quelque chose qui est bon, et mais il faut s'en prémunir.
Mal.
Et quelque chose qui est mauvais, et il faut le faire quand même. Voilà.
Je ne trouve pas que ce soit aussi absolu.
Comment ?
Je n'ai pas compris, vous pouvez répéter ?
Yes.
Merci.
Non, mais c'est bien qu'on soit en petit comité, comme ça on peut vraiment travailler le texte. Hein. C'est une opportunité. Il y a une différence, mauvais et mal, bon et bien. Pour reprendre ce que dit Yosef, on pourrait dire que le mal et le bien sont des notions objectives. Alors, la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose de très très important. C'est comme ça que dans la vie, on doit affiner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais des fois, prenons par exemple, on a parlé de ça déjà, tuer pour se défendre, c'est peut-être mauvais. Ça veut dire, c'est peut-être terrible à faire. Mais peut-être c'est ça qu'il faut faire. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Des fois, hein, des fois. Peut-être c'est ça qu'il faut faire. Donc, il y a le. On pourrait dire la recherche de ce qui est bon. Voilà, il y a quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est bon, mais peut-être c'est pas ça qu'il faut que je fasse, voilà. Mais si je mange ce fruit, je serai tellement pris par la sensualité qu'après ma vie va être ça va être ça le moteur, la recherche du bon et se prémunir de ce qui est mauvais. Quand en vérité, ce qu'on doit, c'est se prémunir du mal en tant que tel et faire le bien en tant que tel, même si c'est désagréable des fois de faire du bien. Voilà. Mais des fois, Maïmonide il développe toujours, c'est très beau, hein, c'est un passage magnifique de Maïmonide, peu connu, je sais pas, c'est peu connu, mais c'est très éloquent dans les versets, ça rend compte. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Alors, il y a combien de commandements de Dieu là ? Il a donné combien de commandements Dieu ?
Un seul.
Trois.
J'écoute, j'ai pas lu les corriger.
Tu le gardes, le Gan Eden.
Oui.
Le garder, le travailler et ne pas manger.
Et manger les autres, quand quatre. C'est écrit.
Ah, il faut manger.
Avant, c'est écrit qu'il faut manger les autres.
Ah.
Quatre.
Alors, j'ai pas des bons points. J'ai pas des bons points. Bon point, bon point, une poire, un bon point pour Nathan. Très très important. Regardez le texte. Dieu a donné à l'homme en disant « De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. » Alors, il y a deux, disons, avant, c'est-à-dire la mission, c'est de travailler et de préserver. Mais Dieu ordonne, il ordonne, premièrement, premier commandement, commandement positif, de manger des arbres du jardin. Alors c'est bizarre parce que on aurait dit de manger des fruits du jardin. Moi je mange pas l'arbre en tant que tel.
Ça marche là?
Ouais, ouais.
Yes?
Ouais, ouais, je vais vérifier.
Oui. Moi je mange pas l'arbre. Je sais pas, vous mangez l'arbre? Ouais. Ham. Ouais. On mange du fruit. Alors les sages disent que dans la vision première, l'arbre avait le même goût que le fruit. L'arbre avait le même goût que le fruit. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, la première, c'est un commandement positif. Deuxième, commandement négatif, ne pas manger de l'arbre de la connaissance. De la connaissance, etc. Hein. Voilà. De l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Donc, il y a deux commandements. Commandement positif et commandement négatif. On passe, si vous le voulez bien, à la page, deuxième page photocopiée. Chapitre Guimel, verset Aleph. Et voilà le serpent qui arrive. Et confiance. Voilà. Vanachash, aya arum, mikom, mikol, chayat asade, asher asa, Hashem Elokim. Vayomer elaisha, af ki amar Elokim, lo tochlu, mikol etzagan. Le serpent était arum, ça veut dire quoi? Comment? Rusé. Hein? Rusé. Sournois. Oui. Maintenant, c'est comme oui, tu sais, t'as.
La linguistique.
Dans oui, il y a les deux méchants dans le livre oui. Tu connais pas? Oui. Non, c'est pas ta culture. C'est pas passé à Academ, oui.
Non,
ça j'aime pas. Il y a deux méchants, dont un.
Ken.
Un des deux méchants dans Oui, il s'appelle Sournois. Ouais. Comme dans la Torah. Maintenant, il y a un truc que j'ai. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. C'est que le mot Arum veut dire sournois, rusé et nu. Nu. N-U. Why? Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. Vous avez une idée?
Moi, j'allais dire que ça me faisait penser au mot Yeroum, qui veut dire nudité.
Oui. Là, c'est étonnant, hein. Alors, le serpent était Arum. Arum, alors, dans le contexte, ça veut dire sournois, rusé. Mais, ça veut dire aussi nu. C'est bizarre, non?
Le Rashi, il est sur ça?
Alors, Rashi, une seconde. Verset Aleph.
Ben, Rashi, il y a Arum.
Non, c'est autre chose. Non, Rashi, il prend l'option rusé. Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? Rakim. Onkelos, oui, Onkelos, il dit, était savant, plus savant que tous les animaux du jardin que Dieu avait créés. Maintenant, on sait.
Comme l'inverse de. Enfin, comme le date, quoi. Comme si lui, il avait déjà mangé le fruit, c'est ça qui tient. Enfin, ou pas.
Non, parce que le date, tovara, c'est pas la chorma, c'est autre chose, c'est pas la chorma. C'est ce que la thèse de Rambam est, il me, franchement, c'est lecture, la lecture, je la trouve excellente. Maintenant, il est Chacham, le serpent, et savant, génial. Ça, c'est un point. Les méchants, ils sont toujours géniaux. Sauf les Dalton. Mais regardez, par exemple, le Hamas. Ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Mais comment ils ont eu ce génie de foutre pas seulement l'État d'Israël, mais les Juifs complètement par terre. Avec cette histoire d'otages, ils nous ont coincés. Ils auraient attaqué sans prendre d'otages, ils se seraient pris une raclée et puis on passe à autre chose. Avec cette histoire de prendre des otages, c'est pas les 250 otages qu'ils ont pris, c'est tout le monde ils ont pris, tout l'État d'Israël ils ont pris en otage. Mais comment ils ont eu cette science? C'est incroyable, non? C'est balèze. C'est prix Nobel des méchants, hein. Mais vraiment, ça, toujours, par exemple, quand les nazis se sont attaqués contre les juifs, ils avaient des stratégies. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils arrivaient dans des villes, ils ont nommé un conseil des juifs, et ils ont demandé aux juifs de faire le sale boulot. Et c'est dans la science méchante, c'est génial. Ça, c'est un truc qui me... J'avais compris, vraiment. Dire que... Alors, ça, c'est un point, d'accord? Mais est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Pourquoi le mot « intelligent » explique Rashi, Onkelos dit « c'est Chacham » et pourquoi le mot « Arum » que Onkelos traduit par « Chacham »« intelligent »« rusé » c'est le même mot, c'est le même mot que « nu » Pourquoi? C'est bizarre, non? Qu'est-ce que ça a à voir, être nu, être rusé? Au contraire, la ruse, c'est entourloupiné.
Ça voudrait dire qu'il connaît que le serpent connaissait le mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, je ne sais plus c'est quel pasouk, il y a un pasouk après que Adam et Chava ont mangé le fruit. Qui dit qu'ils ont...
Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus.
Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça voudrait dire que le serpent était déjà en fait dans le mal, quoi.
Je sais pas, vous avez une idée? Quelqu'un de rusé, au contraire, il se cache, il se montre pas. Il montre pas son stratagème.
Oui, il se montre pas, mais...
Il se montre pas, en nu, tu te montres.
Mais il a conscience d'être mauvais, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Il a conscience d'être mauvais. Il a conscience d'être mauvais, pardon.
Ah.
En bon français.
Ah, d'accord. D'accord. C'est un peu ce que disait Yosef il y a quelques minutes. D'accord, ok, on continue. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit, le serpent. Je traduis. Vayomer el Aïcha. Alors, entre-temps, quand Dieu a ordonné à l'homme, la femme n'était encore pas créée. On n'a pas photocopié la page d'après. Oui, on a sauté une page. C'est la création de la femme. Dieu s'est rendu compte, c'est pas bien que l'homme soit seul. Il a créé la femme. Et ensuite, le serpent, il dit à la femme, « Af ki amar Elohim, est-ce que c'est vrai que Elohim a dit, ne mangez pas de tout arbre du jardin ?» Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit le serpent?
Il déforme les paroles. C'est parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Non?
Oui, oui.
Donc ça. L'otochlu mikol etzagan, mikol etzagan, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit au contraire, manger de tous sauf un.
Voilà.
C'est en ça qu'à mon avis, il est Harum, qu'il est rusé, le serpent.
Ouais, on dirait Maltim Pano. Non, ça veut dire. Non, ça veut dire c'est
il est pas très rusé.
C'est la manipulation. Ça veut dire on te dit du faux. C'est une fake news, quoi. Entre parenthèses, j'ai vu là qu'il y a un livre qui vient de paraître. Le titre, c'est la post-vérité. Avant, il y avait le post-modernisme. Maintenant, la post-vérité. C'est-à-dire la vérité, on n'aime pas la vérité. On aime que ça soit faux. C'est ça la thématique. Mais regardez le serpent, c'est intéressant.
Ah, c'est.
C'est intéressant. Maintenant, essayons de voir vraiment qu'est-ce qu'il a dit, le serpent. Il a dit, est-ce vrai que Elohim, vous pouvez remarquer qu'il a zappé le tétragramme, l'Amidat Rachamim, il l'a zappé. Et d'autres, il l'a zappé, il a dit, est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, Nathan, toi, tu dis, c'est pas ça du tout, Dieu a dit, vous mangerez des arbres du jardin. Seulement, il y a un seul arbre que vous ne mangerez pas. Mais à part ça, c'est un peu naze ce qu'il dit, non? Est-ce que c'est vrai que vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Comme si, mais alors, qu'est-ce qu'on va manger? Moi, j'ai l'impression, vous savez, des fois, il y a des gens, ils disent à des gens religieux, c'est vrai que le Shabbat, vous n'avez rien de droit de faire? Quand quelqu'un me dit ça, je dis, c'est vrai, on n'a rien de droit de faire. On a, Shabbat, on ne fait rien, rien du tout. Ou alors, c'est vrai, vous les religieux, vous n'avez rien de droit de manger? Moi, je dis, c'est vrai, on n'a rien de droit de manger. C'est vrai, mange rien. Non, c'est vrai, t'as tapé juste, hein, on n'a rien le droit de manger. On mange rien, on fait rien. Et complètement à l'ouest. C'est vrai, vous êtes complètement à l'ouest, c'est vrai. Par contre, la jeune femme là qui vient juste d'être créée, elle n'est pas méchante comme moi. Elle est gentille. Elle va dire non, c'est pas tout à fait ce que tu dis. Voilà. Elle va négocier. Alors, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est le toupet qu'il a. Est-ce vrai? Regardez, c'est vraiment. Et c'est vrai que Dieu a dit, il a enlevé le tétragramme, Midat HaRachamim, la dimension de générosité, et il dit la dimension de miséricorde. Il dit que Midat HaDin, seulement la dimension de justice. C'est vrai que Elohim m'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Ce qui est en soi, vous voyez, c'est ce qui est intéressant parce que, moi je trouve que c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on est confronté à énormément de mensonges qui laissent pantois. On ne sait pas, on nous dit des trucs de dingue. On nous dit des mensonges. Par exemple, quand il y a eu les vidéos qui ont été présentées après les massacres du 7 octobre, on a dit oui, mais c'est les sionistes qui ont manipulé, c'est des faux. En vérité, il n'y a pas eu de massacre. T'es là. Il n'y a pas eu de massacre. Attends, excuse-moi. C'est pince-mi et pince-moi. T'es là. Ça ressemble un peu, si vous voulez, au serpent. Il dit quelque chose qui n'est pas possible. C'est un faux, 100% faux. Ça veut dire, là, il y a des fruits qui sont 100% bio, oui, mais là, c'est 100% faux. Alors, t'es là. C'est 100% faux. Que faire?
Mais là, il ne fait pas une affirmation, il pose une question.
Il pose une question. Alors, regardons qu'est-ce que la femme va répondre. Vatomer Aïcha et la Nachash. La femme répondit au serpent. Mipri et Sagan Nochel. Du fruit de l'arbre du jardin, on mange. Vous pouvez remarquer qu'apparaît le mot fruit. Jusque-là, on n'a pas vu le mot fruit.
Du fruit de l'arbre du jardin, on mange.
ou mipri à etz à sherbetoragan à mar elokim lotorlu mimenu velo tigubo pentemutun. Et de fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit n'en mangez pas, ne le touchez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors, le jeu des sept erreurs.
C'est génial.
Comment voir la version que dit la femme au serpent et ce que Dieu a dit à Adam? Allez, à vous de travailler là. Hein.
Bon, déjà, c'est l'arbre. En plus, ils sont au pluriel, non?
Comment?
Elle a rajouté ne pas toucher.
Il n'y a pas touché.
Ouais, ça, elle a rajouté ne pas toucher. Hein. Voilà. Vous vous débrouillez en hébreu ou ça va pas? Je peux. Regardez, j'ai. Oui, j'ai écrit au tableau.
Non, je comprends pas les volumes.
J'écris au tableau. Alors. La femme dit au serpent, des fruits du jardin, on mange. Et des fruits, et de du fruit. Du fruit de l'arbre. Qui est au milieu du jardin, Elohim a dit n'en mangez pas et ne le touchez pas. De peur que vous ne mouriez. Yes? Alors, les erreurs.
Des fruits.
Comment? Le fruit, on n'a pas vu le mot fruit avant. D'accord?
Le fruit qui soit au centre.
Au centre, elle n'a pas dit l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, l'arbre qui est au milieu.
Et ne touchez pas.
Ne touchez pas. Alors, mais la différence aussi absolument fondamentale, qu'elle dit Elohim et pas Hachem Elohim. Oui. Et d'autre part, pour reprendre ce que tu as dit Nathan tout à l'heure, elle ne dit pas que c'est un commandement positif de manger des fruits du jardin. Elle dit on mange des fruits.
On
mange des fruits.
C'est plutôt, on mangera des fruits.
Nochel. Plutôt... Non, nous mangeons. Oui, oui. C'est un pluriel, c'est un futur. Tu as raison. Nochel, nous mangerons. On mange des fruits, mais elle dit pas que c'est un commandement positif. Donc là, il y a un grand commentaire. Il y a une centaine d'années qui s'appelle Rabbi Meir Simcha de la ville de Dvinsk en Lettonie. Rabbi Meir Simcha, Simcha à Cohen, qui était Cohen, de Dvinsk. Voilà. Dans son livre Mesher Chochma, dans un livre qui s'appelle Mesher Chochma, il soulève, là se trouve la faute d'Adam. C'est quoi la faute d'Adam?
On comprend que la femme qui n'a pas entendu la phrase de Dieu, eh ben, ça veut dire que Adam lui a mal retransmis les paroles.
Voilà.
Elle n'avait pas les armes pour se défendre.
Que, en vérité, Adam a manipulé Ève. C'est pour ça, dans notre tradition, c'est vrai que c'est Ève qui a fauté, mais en vérité, si on regarde les mots vraiment pile poil, c'est ce qu'on vient de faire, on voit qu'elle rapporte les paroles de Dieu. Elle n'était pas là. Donc ça veut dire que Adam n'a pas transmis comme il fallait transmettre. Et qu'il a zappé dans son enseignement, il a zappé le fait que c'était deux choses. D'abord, c'est Hachem Elohim, il y a dimension Midat Rachamim, et deux, et le, peut-être le plus important, soulève Rabbi Meir Simcha, un des éléments fondamentaux, c'est qu'il a zappé que c'était un commandement positif de manger des fruits, de manger simplement. Donc, il développe qu'en vérité, manger, se sustenter, c'est pas simplement il faut manger pour vivre. Par exemple, quand on dit, il y a des gens qui disent, ouais, il y a deux choses débiles qu'on dit. Il y en a pas que deux, hein, mais bon, je pique ma crise, il y a deux trucs débiles. On dit par exemple, l'argent, c'est.
Bonheur.
Comment ?
Le bonheur ?
Oui, c'est juste. Mais. mais. Comme dit Coluche, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Bien. Alors, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous connaissez cette expression,
ouais.
Hein? Moi, je suis contre ça. Parce que l'argent, c'est beau. L'argent, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans argent. D'ailleurs, dans nos traditions, l'argent, ça se dit damim comme le sang. Damim, hein, damim. Ça veut dire et l'argent et le sang. Donc l'argent, c'est la vie. Donc dans notre tradition, on ne dit pas l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, l'argent, c'est beau.
Ou alors l'argent, ça nous coule dans les veines.
Ça nous coule dans les veines, c'est la vie. C'est, voilà. Bien, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y en a qui disent... Tu es enregistré.
Ah, pardon.
Voilà.
Oh, ma gueule.
Non, au contraire. Alors, aussi, il y en a qui disent... Il y en a qui disent, on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Hein, vous avez déjà entendu ça,
oui.
Hein, la petite morale à 2 centimes et demi. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Dans notre tradition, ce n'est pas comme ça. C'est que manger, c'est une mitzvah. Donc vous comprenez, on arrive là à Tu Bishvat. Que manger, ça aurait été jouir de la vie, c'est pas simplement jouir, c'est un rapport fort avec le monde. Manger les merveilles du monde, c'est une connaissance. Il y a deux manières de connaître le monde. Il y a, on dit que la relation entre un homme et une femme, dans notre tradition, ça s'appelle connaître. C'est une connaissance. C'est une expérience du monde. De la même manière, manger, c'est aussi une expérience du monde. C'est, par exemple, c'est quoi ? Qui suis-je ? Ouais, c'est une grande question. Qui je suis ? Eh bien, la baguette avec le tranche de fromage que j'ai mangé au petit déjeuner, eh bien, c'est moi. Moi, ma peau, ma chair, c'est quoi ? Ben, c'est ce que j'ai mangé. C'est un truc de dingue, quand même. Ça veut dire, là, cette banane, que je vais manger, ou que j'ai mangé, eh bien, c'est pas seulement que je la mange, c'est quelque chose qui est extérieur à moi, quelque chose du monde. Je vais le manger, et ça va devenir mon corps. C'est un truc de dingue, quand même. Je goûte le monde. J'ai une expérience du monde. Donc, manger, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah relatifs au manger. Pour mettre en relief l'importance que c'est de manger. Alors, tu vas manger de la viande. C'est pas, oui, je mange de la viande. Voilà. Si vous voulez, c'est ça, Ève. Elle dit, ouais, on mange de la viande. Non, on ne mange pas de la viande. On a une expérience de manger de la viande. Pour manger de la viande, il y a des commandements relatifs au fait, voilà, on ne mange pas n'importe comment de la viande. c'est une expérience, une haute expérience. C'est un commandement que Dieu ordonne à Adam. Maintenant, pourquoi Adam, il n'a pas transmis ça?
Moi, j'aurais dit comme ça que il voulait. C'est quand même les éléments là, les éléments qui manquent. Enfin, ou en tout cas, les éléments qu'il a mis en exergue, c'est plein d'éléments pour empêcher que ça arrive. C'est-à-dire déjà enlever Yud-Kevav-Ké, ça t'enlève le fait que potentiellement tu vas te repentir, mais que t'as que la rigueur, donc en fait ça fait encore plus peur. Donc tu le fais vraiment pas. Ensuite il a dit...
N'en touchez pas.
Il faut pas le toucher, donc tu t'éloignes encore. Et en plus, la qualification de l'arbre qui était le dat, c'est quand même une récompense de la faute, quoi.
Ouais.
Avoir le dat. Et ben, en plus il a pas dit la récompense.
Non, c'est, d'après Maïmonide, c'est pas une. C'est,
non, mais.
Non, c'est, mais en tout
ça
cas.
Veut dire que ça aurait pu.
Oui, mais si tu veux, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, c'est une explication aussi pourquoi je ne dois pas en manger. Elle dit l'arbre qui est au milieu. C'est bourrin ce qu'elle dit. Elle n'explique pas pourquoi je ne dois pas manger cet arbre.
Mais ça aurait pu l'intriguer, ça, de connaître la différence entre le bon et le mauvais.
Oui.
Et donc. Comme là, il n'y a pas d'information.
Il n'y a pas d'information.
C'est même pas intriguant.
Si vous voulez, on pourrait dire Adam a inventé une religion. Une religion. C'est la Torah, je dirais, ce n'est pas une religion. C'est une dimension de vie. C'est de nous éveiller à une vie. Et bien, il a transformé une dimension de pouvoir, de impressionner. C'est une dimension impressionnée qui n'a pas de sens. Une dimension, voilà, c'est Elohim, voilà, il faut appliquer la loi. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est comme ça, il faut appliquer la loi. Et donc, c'est une dimension de pouvoir. Une dimension de pouvoir, de contraintes. Hein, il y en a beaucoup qui disent, oh là là, le judaïsme, il n'y a que des contraintes. Vous connaissez ça, hein? On connaît ça par cœur. Entre parenthèses, il y avait, peut-être je vous ai déjà raconté au fil du temps, on habitait Créteil il y a une certaine époque, et il y avait une voisine non-juive qui aimait bien prendre un café avec mon épouse, comme ça, elle aimait bien notre vie, voilà. Et elle dit, ah, c'est une belle vie ce que vous avez, il y a trop de contraintes. Voilà. Il y en a beaucoup qui voient... C'est des contraintes. Mais en vérité, cette contrainte... Alors, c'est ça le sujet, si vous voulez. C'est ça le sujet. J'aimerais enrichir la réflexion avec un passage du Talmud. Et ça, c'est un de mes passages préférés. Je vous fasse ça. Alors... Le passage que je vous passe là, le passage, oui, c'est le même texte. Le passage que je vous ai passé, c'est le passage Kouftet Amoud Bet, c'est-à-dire 109b dans le traité Khoulin. Le huitième chapitre du traité Khoulin parle de l'interdit de manger de la viande avec du lait. Hein? L'interdit de manger la viande avec du lait. Et le passage ici aborde la limite, c'est comment faire pour manger le pied de la vache.
Le quoi?
Le pied de la vache. Qu'est-ce que vous en dites, le pied de la vache?
Cachère.
À ma droite, cachère.
Parlez.
qu'est-ce que vous dites du pied de la vache?
Mais si on le vide, il n'y a plus de lait.
Comment ?
Ça dépend si
s'il est plein ou pas plein.
À chaud, à froid, ça.
Alors concrètement.
J'imagine.
Alors, disons, alors concrètement, si vous êtes confronté à ça, il faut fendre la mamelle, la fendre, l'écraser pour faire sortir le lait, et après, c'est cachère.
C'est bon, c'est
mais, la problématique, c'est que dans la mamelle, il y a les glandes qui fabriquent le lait, qui ont du goût de lait. Eh bien, c'est cachère. Bien. Alors, c'est tout le comment toute la page, c'est comment, d'après la Torah, on pourrait le manger tel quel, même s'il y a 10 litres de lait dans la mamelle. Pourquoi, comment, je vous passe. Voilà. D'après la Torah, on pourrait rabbiniquement, il faut la faire dégorger, mais sans plus. D'accord. Alors maintenant, la Gemara va rapporter le dialogue entre Madame Yalta et son mari Rav Nachman. Regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième ligne avant la fin de la page. Alors, Yalta, c'est la femme d'un grand maître qui s'appelle Rav Nachman. Ok, bien. Donc Rav Nachman, c'était le grand juge rabbinique de sa génération à Babylone. On a dit, et Babylone, c'est en Irak. Amrale Yalta le Rav Nachman. Yalta, elle dit à Rav Nachman. Mirde, kol, c'est en araméen, mais je vais vous le traduire. Mirde, kol de asar lan rachmana, shara lan kabate. Étant donné que tout ce que Dieu a interdit, il y a toujours son équivalent en permis. Alors, Yalta, c'était la fille d'un grand maître. Elle a appris chez son père que tout ce qui est interdit a son équivalent en permis. Il n'y a pas une chose interdite qui n'a pas son équivalent en permis. Alors, elle va faire la liste. Elle va prendre un exemple. Asarlan dama, charalan kavda. Alors, elle est un peu Yalta, elle est un peu croquignole, on la voit plusieurs fois dans le Talmud. C'est une personnalité, on va voir quelle est sa personnalité. Par exemple, quand on mange la viande, on fait l'abattage de la viande. La viande, on doit cachériser la viande. On doit enlever le sang de la viande en salant la viande. D'accord ? Bien. Donc le sang de la viande est interdit. Par contre, le foie d'un animal est permis. Alors, du foie de veau, du foie de bœuf, oui, c'est permis. Alors, on cachérise, n'est-ce pas ? On cachérise le foie. Alors, il y a un grand maître qui s'appelle le Ran, Rabbi Nissim de Gérone, il déduit d'ici une loi que cachériser le foie, c'est une barrière rabbinique, c'est pas d'après la Torah. En vérité, le foie, vous savez comment on cachérise le foie ?
On grille, non ?
Oui, on grille, mais on le carbonise pas. Ouais. On met le foie, on le met par exemple sur une grille, sur un barbecue, et on laisse sortir le sang. Dès qu'il est sec, c'est cachérisé.
Au revoir. Oui, il n'y a pas de problème.
Dès que le foie est sec, ça veut dire qu'il n'y a plus de jus qui sort, c'est cachérisé. Mais pas besoin d'aller plus que ça. Hein. On par la flamme, on enlève, mais on ne brûle pas le foie. Hein. Or, un foie, c'est que du sang. Ça a le goût du sang. D'ailleurs, des gens qui ont de l'anémie, souvent, les médecins disent de manger le foie. C'est vrai, ça, monsieur ? Autrefois.
Autrefois, ils devaient dire ça.
Autrefois, ils disaient ça. Mais le foie, disons, s'est gorgé de sang. Donc, elle dit, Yalta, le sang est interdit par la Torah. Mais il y a des choses, c'est quelqu'un, par exemple, il est accro, il veut goûter le goût du sang, du sang animal. Eh bien, mange du foie, tu auras le goût du foie, tu auras le goût du sang. Tu manges un foie, oui, du foie, cachérisé, mais pas plus que ça, eh bien, tu as le goût du sang. Voilà. Continuons. Alors là, vous allez voir, c'est un peu croquignol. On a déjà abordé, il y a deux semaines, une femme qui a du sang menstruel, tant qu'elle n'est pas allée au bain rituel, elle est interdite. D'accord ? Bien. Maintenant, une femme, alors, il y a des cas dans la Torah qui sont le cas suivant. J'aime bien rapporter ça, même si ça peut vous choquer un peu, mais bon, on se connaît. Hein, bien. Une femme qui accouche, d'après la Torah, aujourd'hui la coutume n'est pas comme ça, mais jusqu'au Moyen-Âge, c'était encore comme ça. C'était comment ? Une femme, elle accouche un garçon. Elle accouche d'un garçon. Pendant 7 jours, après l'accouchement, elle est impure. Au bout de 7 jours, elle va au mikvé. Pendant 33 jours, même si elle a du sang, c'est permis. La vie de couple est permise. Après 7 jours, elle va au mikvé, même si elle a des écoulements de sang. Je peux vous dire qu'après un accouchement, il y a des semaines, comment dire en termes médical.
Après l'accouchement ?
Ouais.
Postpartum.
Des sangs postpartum, ça dure. Hein ? Postpartum, ça dure assez longtemps. Eh bien, passé 7 jours, elle va au mikvé. Pendant 33 jours, c'est permis. Passé ces 33 jours, si elle a encore du sang, c'est interdit. Si c'est une fille, 14 jours impurs, 66 jours, même si elle a du sang postpartum, c'est permis. Alors, Yalta, la brave Yalta, femme de Rav Nachman, elle dit, disons qu'un couple a envie d'avoir une relation pendant qu'il y a du sang. Eh bien, c'est possible. Pendant cette période. Si ils ont envie, eh bien, c'est possible, juridiquement.
Ça veut dire que même si elle retrouve ses règles...
Non, les règles, c'est bien après. Non, les règles, c'est bien après. Là, c'est du sang postpartum. C'est le retour de règles, c'est bien après.
Okay.
Non, c'est bien après. Mais là... Il y a du sang, ça veut dire après un accouchement, il y a des choses dans du corps qui se dévèrent, qui se résorbent, et ça fait des saignements. Eh bien, si un couple dit, voilà, nous on a envie juridiquement, d'après la loi, avoir une relation quand il y a du sang qui coule, eh bien c'est permis mes chéris. Voilà, c'est ce qu'elle dit Yalta. Juste à ce moment-là. Continuons. Alors, regardez, on va passer quelques lignes parce que c'est très complexe. Eschetish, une femme mariée, il y a des cas un peu complexes. Eschetish, une femme mariée, c'était l'adultère. L'adultère, c'est interdit, d'accord ? Bien. L'adultère, c'est interdit. Aller avec la femme d'un autre, c'est interdit. Yalta le dit. Mais une femme divorcée, c'est permis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je n'ai pas compris. Elle a dit que...
Si elle est divorcée, c'est pas un adultère.
Comment ?
Si elle est divorcée, c'est pas un adultère.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la brave ?
Sous-entendu, c'est qu'il y a un mec qui a envie d'aller avec une femme qui a déjà connu un autre homme. Ouais. C'est-à-dire la Torah lui permet, dans la situation...
Mais regarde, elle est plus coquine que ça. Elle est plus coquine. Elle dit, c'est pas... Parce que, disons, il y a une femme, elle a vécu 20 ans avec un homme, ils ont 3 enfants ensemble. Bon, pour des raisons lambda, ils divorcent, d'accord. Mais, elle sait pas, parce qu'elle a reçu le guet au consistoire, qu'il n'existe plus dans sa vie. La preuve, il faut encore appeler, oui, alors les gosses, machin, qui c'est qui va...
qui c'est qui va à la réunion de parents d'élèves. Donc, elle a encore des liens avec son ex. Et elle a encore un homme dans sa vie. Alors, un homme, il veut aller avec une femme quand elle a encore un autre homme dans la vie. Eh bien, c'est permis. C'est un peu... ça vous plaît pas, ça ? Comment ?
On parle bien d'une femme divorcée. Non ?
Oui, divorcée juridiquement, mais... Il y a le une fois, il y a... Une fois, il y a un couple. Chacun, il a divorcé. Donc, c'est une famille recomposée, comme on dit. Ils se sont mariés, excusez-moi l'expression, ils se sont mariés, le lit a cassé. On dit pourquoi ? Parce qu'ils étaient à quatre dans le lit. Non, c'est une manière de dire. C'est une manière de dire. Non, ça veut dire qu'il y a un vécu. Elle a déjà vécu. D'ailleurs, il y a des cultures où le divorce n'existe pas. Chez les vrais catholiques, ça n'existe pas, le divorce. C'est la Torah, elle a innové que le divorce est possible. C'est depuis 3500 ans, ça existe dans la Torah, le divorce, écrit dans la Torah. Mais il y a des cultures où c'est pas comme ça. Parce que juridiquement, il y a une rupture. Mais émotionnellement, affectivement, c'est pas forcément de rupture. Pas forcément de rupture. Donc, mais juridiquement, il y a une rupture. Alors, là-dessus, Yalta, elle dit, eh bien, quelqu'un, ils veulent avoir une relation où il y a un peu mélange affectif, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est travail, c'est possible. C'est possible. Voilà. Continuons. Voilà. Oui. Alors maintenant, la femme de son frère, c'est interdit, c'est un inceste. Mais si son frère est mort sans enfant, c'est même une mitzvah d'épouser sa belle-sœur. Alors, il faut savoir. Quelqu'un, il dit, voilà, il y a son frère, il épouse une femme, il est amoureux de sa belle-sœur. Pas de problème. Il faut seulement attendre qu'il meure. Non, ça veut dire... Donc, la Torah, il y a toujours quelque chose d'équivalent. Continuons. Alors, elle dit à son mari, regardez la quatrième ligne avant la fin de la page, « Baïna l'émiral Bassar Bechalva ». Elle dit, moi, j'ai envie de manger de la viande avec du lait. De goûter le goût de la viande avec du lait. Elle dit, j'ai envie de goûter la viande avec du goût de lait. Il a dit, Amarle, Rav Nachman, les tavrés, Zakulo, Kachle. Rav Nachman, il a dit à ses cuisiniers, donc c'était le grand rabbin de Babylone, il a dit à ses cuisiniers, amenez-nous de la mamelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Yalta? Yalta, elle dit, je vais vous dire, mon épouse, elle dit comme ça. Elle dit que il y a des choses, par exemple, la Torah, elle ne cherche pas à nous priver. Il y a quelque chose qui est interdit. Tu veux le goût de l'interdit. Par exemple, il y en a qui disent, vous allez dans un magasin cachère, il y a des fausses crevettes. Vous avez déjà vu ? Ouais. Il y en a qui disent, ouais, c'est absurde, des fausses crevettes, machin, on est complexé, machin. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Mais disons, je ne sais pas si c'est génial. Ouais, c'est... Mais, comment dire ? Elle a aussi donné l'exemple. Le porc, c'est interdit. Maintenant, tu peux cuisiner certaines choses, viande cachère, de manière à avoir le même goût que du porc. Tu as envie de goûter le goût du porc, mange pas du porc, mais tu peux l'avoir en équivalent. Ça veut dire, la Torah ne cherche pas à te priver. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi l'interdit et qu'est-ce qu'elle veut, Yalta ? Elle dit, moi, elle dit à son mari, j'aimerais goûter le goût de la viande dans du lait. Il dit, pas de problème. Il dit à ses cuisiniers, amène-nous de la mamelle, machin. OK ? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi son problème à la brave? On peut se poser la question, donc, c'est quoi un interdit? Pourquoi Dieu a donné un interdit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi?
Limiter.
Comment?
Limiter. Faire établir une limite. Moi, j'ai l'impression que ce que Yalta, elle fait, c'est elle prouve que... Elle essaye de démontrer ce que n'a pas dit Adam à Chava. Elle essaie de lui dire il y a une positivité et une négativité. Tu n'as pas dit la positivité.
Je ne crois pas que ce soit une limite. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Je vous passe encore un texte de Maïmonide.
C'est un peu comme quand on dit de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Oui.
Finalement, si on se concentre sur les interdits, il n'y a pas, on n'a pas besoin, on ne peut pas. Mais d'un autre côté, si on ne peut pas ça, on peut autre chose. Donc c'est une histoire de point de vue aussi.
C'est bien vu.
On dirait ici, si vous voulez, que la Torah n'est pas là, ce qu'elle dit. La Torah, elle n'est pas pour nous priver. Alors, c'est quoi le but des interdits? C'est pas pour nous priver. C'est quoi le but de l'interdit? Regardez Maïmonide, dans les lois de Shabbat, il dit quelque chose de magnifique. Le deuxième chapitre des lois de Shabbat, je vais vous le lire. Le deuxième chapitre des lois de Shabbat, ça parle si quelqu'un est en danger Shabbat, si quelqu'un est en danger Shabbat, on doit de toute urgence sauver la vie au détriment de Shabbat. Hein? Au détriment de Shabbat. Bien. Alors, Maïmonide, comme il écrit les choses, c'est vraiment magnifique. Je vais vous le lire. La loi Guimel. Keshe osin dvarim elu, quand on s'occupe de sauver une vie, un malade, ou quelqu'un qui a un accident, Enosi motam, lo aliede nochim, velo aliede ktanim, velo aliede avadim, velo aliede nashim, kede shelot e shabbat kala be'enem. Et là, aliede gdole Israël vechochmeem. Quand on fait ces choses-là, ça veut dire de s'occuper de sauver quelqu'un shabbat, on ne demande pas à un goy de le faire, on ne demande pas à des enfants de le faire, c'est le rabbin lui-même, par exemple, s'il y a quelqu'un, il tombe dans les pommes dans la synagogue, c'est le rabbin qui va prendre le téléphone pour appeler l'ambulance. Entre parenthèses, il y a X années, j'étais... vous savez qu'est-ce que c'est un tiche? C'est un repas chassidique. Et bien, j'ai un ami, qui est un chassid d'une chassidou qui s'appelle Shomer Emunim à Miacharim. Et je suis allé avec mon premier gendre, je suis allé avec lui et quelques enfants à moi, aux tiges de ce rabbi, voilà. Ça dure, ça commence à 11h du soir, ça dure 2h du matin, 3h du matin. Et vers 2h du matin, mon gendre...
C'est samedi, c'est Erev Shabbat.
C'est vendredi soir. Vendredi soir. À 2h du matin, mon gendre, il tombe en syncope. Le rave, assis à côté du rabbi, il prend son habit de Shabbat, il prend un bip, allô. La nuit de Shabbat, il avait un bip au cas où il y aurait un problème. Il appelle le bipeur pour appeler l'hôpital. Non, c'était un truc, t'as 150 personnes en train de chanter, tu vois. Le rave qui est à côté du rabbi, il avait un téléphone au cas où. Il prend le téléphone devant tout le monde pour appeler, pour le sauver. Et de l'hôpital, pour ceux qui connaissent Jérusalem, de Charet Sedek, il y a une ambulance, un SAMU qui est venu. Et un mec en Streimel, le médecin, il était en Streimel et sorti du SAMU pour prendre mon gendre. Bon, après, c'était pas grave. Et il a passé la nuit à l'hôpital, mais c'était rien. C'est pas grave. Mais voilà. Donc c'est ce que dit Maïmonide. Ça veut dire, il faut pas avoir honte de le faire. Il faut le faire au su et au vu que je suis en train de m'occuper de sauver une vie. Continuons ce qu'il dit.
Ve'asur litmamea bechilul shabbat lecholé sheshbo sakana. C'est interdit de lambiner, de repousser shabbat pour un malade où il y a un danger. Chez Neymar, comme dit le verset, Asher yaseota madam vachay baem, que l'homme fera et vivra avec. Tournons la page. Ve'lo sheyamut baem. Les mitzvot sont été donnés pour vivre et pas pour mourir. Et ici, il y a une phrase de Maïmonide incroyable. Alamata, tu apprends, chez En Mishpate à Torah, Nekama Baolam, et la Rachamim Vechesed Veshalom Baolam. Tu apprends de là que les lois de la Torah ne sont pas une vengeance dans le monde, mais sont Rachamim, c'est une mansuétude de la générosité et amener de l'harmonie dans le monde, le shalom dans le monde. En vérité, Maïmonide, il dit un truc incroyable. Tu apprends de là que les commandements de la Torah ne sont pas une vengeance dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On aurait pu penser que les lois de la Torah seraient une vengeance dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire, le brave Maïmo ? Moi, je pense que c'est ça, c'est en vérité le secret du sujet, c'est dans ce mot. Qu'on pense, si vous voulez, que l'homme, c'est un barbare. Il faut une morale pour lui apprendre à vivre. C'est comme si l'homme, il ne pouvait pas vivre par lui-même. Il faut le restreindre dans des choses. Il faut le restreindre pour qu'il apprenne à dominer ses pulsions, des trucs comme ça. Maïmonide, c'est pas ça la Torah. C'est pas les mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la Torah, c'est pas nekama. Ben voilà, c'est pas qu'il y a un Dieu qui a vu que l'homme c'est un voyou, je vais lui apprendre à vivre. C'est comme si les mitzvot, c'était pas une dimension. Est-ce que ça a un écho chez vous, ce terme nekama?
Vengeance, ça veut dire. Ça, c'est un terme assez haineux, si on peut dire.
C'est comme si tu veux, c'est comme si il y avait un dieu qui voulait se venger du côté barbare de l'humain. Alors il dit, voilà, je vais t'apprendre à vivre. Mais il me dit, non, c'est pas ça. La Torah, c'est pour amener un shalom, une harmonie, une Gan Eden, une douceur dans le monde. C'est pas. Ouais, quoi, vous faites pas Shabbat? Qu'est-ce que c'est? Voilà, petit voyou, machin. Non, c'est pas ça. C'est le. Il y a un côté positif. Ça va te construire. Ça te construire. Toujours quand je vois ce passage, parce que Yalta, on la voit dans plusieurs passages qui sont de la même veine. Je propose de dire, j'ai pas vu des commentaires, que Yalta, c'est la réparation de la faute. Yalta, elle répare la faute. Elle dit, elle a son mari, c'est un juge rabbinique. Elle dit, moi, j'ai envie de kiffer. Elle dit, mais ma chérie, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Ah oui, le kiff. Ouais, mais on est dans l'hédonisme. On la recherche des plaisirs, des trucs. C'est pas un problème. Le plaisir, c'est même une mitzvah. Le plaisir, c'est comme ça, par le plaisir, même le Maharal en a fait une grande thématique. Que le plaisir, c'est par le plaisir qu'on existe. C'est par le kiff qu'on se sent exister. Comment nous, on peut se connecter qu'il y a un Dieu qui nous donne la vie? Seulement si nous, on sent qu'on existe. Si on existe, c'est par le plaisir qu'on existe. La Torah, elle n'est pas là pour nous casser notre existence. C'est au contraire. Je dirais, la Torah, elle est là pour donner un relief à l'existence. Les interdits, ils sont là, si vous voulez, pour nous rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose. S'il n'y avait pas d'interdits, eh bien, on ne se rend pas compte. Toute la vie juive, elle est parmi tous les détails de l'existence. Le manger, la vie familiale, etc. Le temps, les fêtes. Par exemple, les fêtes. La base des fêtes, eh bien, c'est la base des fêtes, c'est des moments où on vit. C'est des moments où on vit. Les repas de fête,
C'est la base. D'ailleurs, c'est intéressant. Je crois que dans l'islam, il y a très très peu de repas de fête de part dans leur tradition. Je ne sais pas, vous avez fouillé la question.
Un par soir pendant un mois, quand même.
Mais est-ce que c'est positif? Est-ce que eux, ils le font par positivité ou c'est ils mangent?
Ils ont. Il y a deux Aïd.
Il y a le Aïd. Hein, il y a le Aïd. Mais nous, il y a, disons, toutes les semaines, c'est comment dire, le Shabbat, c'est la fête principale qui est toutes les semaines. Disons, nous, le réveillon, il est toutes les semaines, quoi. Alors, c'est pourquoi? Parce que on n'est pas là. Dieu, c'est pas qu'on dit les mitzvot ont été donnés vechai b'hem. C'est un émissaire tonné et pas Vayamoud Vayam. C'est au contraire pour développer nos dimensions d'existence. Mais je pense que ce que dit Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, c'est que Adam, il a transformé ça en un pouvoir. Ça veut dire, c'était une. Parce que si quelqu'un, il kiffe, je ne sais pas si. Par exemple, toutes les idéologies sont là pour limiter. Le plaisir humain. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a beaucoup d'idéologies qui sont dans. Est-ce que vous avez entendu parler d'un penseur juif d'ailleurs, qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait Wilhelm Reich? Pas du tout. Non.
Juif.
Wilhelm Reich. Alors, Wilhelm Reich. Vous avez entendu parler de mai 68, hein?
Mais mai 68, c'est pas au contraire le plaisir.
Oui, alors justement.
C'est pas une limite.
Non, justement. C'est. Voilà. Un des penseurs phares de mai 68, c'était Wilhelm Reich.
Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'écrit. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich.
Wilhelm Reich, il est né, je crois, dans le sud de la Pologne. Ensuite, comme beaucoup, il est allé à Vienne. Et à l'époque, il y avait deux choses qui étaient à la mode. Le communisme et la psychanalyse.
Deux spécialités. Ben,
pourquoi?
je disais juste avant.
Quoi?
Je disais juste avant que le communisme, c'était à la mode à ce moment-là.
Voilà. Et alors, lui, il a été et communiste et psychanalyste. Et en rentrant là-dedans, il s'est rendu compte que le communisme allait se casser la figure. Mais en 1925, et il a claqué la porte du communisme. Et il a dit pourquoi? Parce que le communisme, c'est, il y a la cause, on doit donner tout pour la cause, et ce que l'individu vit dans ses émotions, c'est complètement banni. Il dit la dimension du plaisir est complètement bannie du communisme. Alors il a été exclu du communisme, exclu du psychanalysme, etc. Et ses livres, moi quand j'étais adolescent, j'étais shooté à Wilhelm Reich. Bon, excusez-moi. J'étais hyper shooté à Wilhelm Reich. Je pense qu'il y a une dimension prophétique chez lui. En vérité, c'était un juif pas pieux du tout. Il n'avait aucune conscience, d'ailleurs, du judaïsme. Mais j'ai découvert tard qu'il était juif. Hein. Vous regardez sur Wikipédia, s'il est juif, indubitablement. J'ai découvert tard qu'il était juif. Mais il a une intuition que la base, en vérité, de l'existence, on existe. L'existence est par la dimension du plaisir. Le plaisir, c'est lui qui va nous faire découvrir les choses. D'ailleurs, dans l'enseignement, on sait que l'enseignement, pour faire participer, il faut donner du plaisir, il faut donner du kiff. Voilà. C'est le kiff, par le kiff qu'on apprend. Et on a parlé de ça, je crois, il y a deux semaines, mais c'est un élément supplémentaire. Et quand elle a dit... Nous, on mange des fruits du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Elohim, on n'en mange pas. Nos maîtres disent, c'est que Adam, il a transformé la parole d'Hachem en religion. C'est ça la faute d'Adam. Il en a fait de la religion. Il a créé une dimension religieuse. Religieuse, c'est-à-dire qui ne nous prend pas dans notre réalité. Je crois que c'est ça ce que Yalta, elle nous dit. Que Yalta, elle dit, mais toi, t'es juge rabbinique. Est-ce que ton but, c'est d'interdire ou d'apprendre aux gens à développer leur existence, à développer leur vie? S'il n'y a pas d'interdit, je ne me rends pas compte. C'est un révélateur. Voilà, je dirais, il y a un débat entre M. Yosef Murciano, même toi, tu as dit, c'est des limites. Moi, je dirais, c'est des révélateurs. S'il n'y a pas d'interdit...
Ça revient même, parce que moi, je considère que limiter son plaisir ou son désir ou quelque chose comme ça, ça amène au plaisir. Donc, ça fait l'objet de ce révélateur-là, parce que si je veux, j'ai jamais le plaisir...
Voilà, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Voilà, je ne me rends pas compte. Alors, c'est ce que... Excuse-moi, Khaviv. Donc, c'est pour ça, si vous voulez... que je pense que les kabbalistes de Tzfat, quand ils ont inventé cette coutume à Tu Bishvat, de le fruit qui est le jour des arbres, on pourrait dire c'est le Rosh Hashanah des arbres, où commence à avoir la sève dans les arbres, c'est le jour où on va réparer la faute d'Adam, et c'est pour ça qu'il y a cette coutume finalement de manger, de quelque part se délecter des fruits. Se délecter des fruits, et voilà, c'est ça, je dirais. Et Yalta, c'est cette personnalité qui, elle dit, moi, je veux kiffer, voilà. je veux exister, est-ce que toi, mon mari, qui est juge rabbinique, qu'est-ce que tu veux en étant juge rabbinique? Est-ce que tu veux apprendre aux gens à vivre, ou tu veux apprendre aux gens à ce qu'ils construisent leur existence? C'est ça, je dirais, ça, son exigence. Et elle dit, allez, on va manger de la mamelle, voilà. Donc la prochaine fois, on sait quel va être le menu, ça va être pas des fruits. Des petites grillades, hein, le staff de l'UEJF.
Est-ce que ça va 250 euros.
Comment?
Est-ce que ça va dans le sens de ce qu'on peut entendre? Je ne sais pas s'il y a une source. Que la force permissive des hachamim, elle est plus forte finalement que la force d'interdiction. Ou alors c'est
quelque ça chose à voir. Différent. Alors ça à voir. Ça veut dire le c'est pas tout à fait, mais on peut développer ce que tu dis, Nathan, que des grands maîtres, on les perçoit dans leur capacité de permettre et pas dans leur capacité d'interdire. C'est plus fort. C'est plus fort de trouver une permission que de trouver un interdit. C'est le même sujet.
Ce n'est pas plus difficile de trouver une permission que de trouver un interdit.
Absolument, parce que interdire, c'est toujours facile. Je veux dire, c'est interdit. Est-ce que permettre, il faut être dans le fond du sujet.
Parce que non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a tellement de paramètres dans la halakha qui fait que trouver quelque chose de permis, c'est quand même compliqué. Il y a tellement de paramètres dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, dans toutes les sources de Halakha,
c'est plus facile
que trouver.
C'est plus facile
et ça dénote une certaine mentalité de pouvoir.
Qu'est-ce qui est plus facile, vous avez dit? Voilà.
Je les maintiens en les interdisant.
Et donc ça, c'est ça la dimension religieuse, quoi.
C'est la religion.
Je n'ai pas compris, vous avez dit quoi? Qu'est-ce qui est interdit?
Il est comme toi. Comme toi.
Ok, c'est bon? Yes, we can? C'est bon, les amis. Merci à vous.